Bonjour à toutes et à tous, vous les curieuses et curieux, bienvenue dans l'onde qui porte votre nom. Aujourd'hui, Sophie m'a cédé sa place dans le studio de Fréquence 7 et je profite d'être au gouvernail pour vous proposer de cheminer ensemble à travers l'expérience humaine. Rien que ça, me direz-vous, et pourtant oui, parce que pour la trentaine de minutes que l'on va passer ensemble, je vous emmène à la découverte de la nouvelle pièce de Roger Lombardo, l'expérience humaine. Elle est jouée à partir de ce soir à l'Aura Canvivaret, à l'atelier théâtre, et le sera tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de cette semaine et celle qui suit. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir celui qui l'a pensé, l'a écrit et l'incarne. Bref, j'ai le plaisir de recevoir nul autre que Roger Lombardo. Bonjour Roger.
Bonjour.
Avec lui, qui nous accompagne dans le studio, Manuel, son fils.
Bonjour.
Pour m'épauler, pour que nos divagations hors des sentiers battus ne deviennent pas des sorties de route, j'ai avec moi en studio également Nico en mode airbag.
Ouais, bonjour, en mode airbag avec grosse doudoune, vous avez vu le météo.
Et évidemment, Sylvain à la régie, sans qui rien ne serait possible.
Bien ouais. Bonjour.
Merci Sylvain pour ta présence. Mais avant d'embarquer dans ce voyage tous ensemble, place à l'agenda avec un premier événement qui va sûrement résonner avec notre sujet du jour. C'est la dernière création de la compagnie Hieras, ça s'appelle Éclat et c'est une création chorégraphique qui fait monter sur scène les patients et infirmiers et infirmières des hôpitaux de jour de Montélimar et Bourg-Saint-Andéol. Traverser les apparences, établir des liens et célébrer la diversité dans une ode à la vie. Un beau programme, ça se passe à la Cascade, à Bourg-Saint-Andéol, demain soir à 19h30. La billetterie se fait sur place le jour même. Comptez une quinzaine d'euros la place. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous mettre l'eau à la bouche, vous pouvez écouter ou réécouter l'onde curieuse du 8 février dernier. On y avait reçu Yvan Gascon, créateur et chorégraphe de la Hieras Company. Tisser des liens avec les autres, avec le monde, mais surtout et avant tout avec soi-même. C'est le sujet de la conférence gesticulée Folie du monde sort de ce corps, proposée ce soir à 19h par la ferme Avenue de Bélande à Aubenas. Ce spectacle de philosophie gesticulante est animé et réalisé par Marie Louvet qui nous en parle en posant les questions suivantes. Suis-je cinglé ? Le monde est-il cinglé ? Sommes-nous tous cinglés, je me prends le monde en pleine gueule en permanence et vous voudriez que j'aille bien. Depuis petite, je veux comprendre, depuis petite, je veux savoir pourquoi c'est comme ça. Il m'a fallu inventer un putain de mode d'emploi de l'existence. Alors je sais pas si ça parle à certains dans ce studio, à vous les auditeurs, mais moi je sais que je suis pas tout à fait étrangère à ce genre de questionnement. Le prix d'entrée est à 8 euros, il y a la possibilité de se restaurer sur place, histoire d'entrer dans ce vertige philosophique le ventre plein, c'est-à-dire dans les meilleures conditions possibles. Ça se passe ce soir à 19h, avenue de Bélande, à Aubenas. Il est important d'être à l'écoute de son estomac, mais aussi de la nature pour Didier Nectou. Il est docteur en géologie et anime une conférence sur les minéraux vendredi à 20h30. Pour lui, les cailloux, parce qu'il faut bien l'appeler ainsi, on peut être tenté de les manger quand on n'a rien d'autre de mieux sous la main, mais ils sont avant tout la base du développement de toutes les activités et productions humaines. Et leur exploitation interroge le rapport fondamental entre l'homme et la nature. Ça se passe à Joyeuse, à l'espace Gerbeau. L'entrée est gratuite.
Hey, autre info aussi, ce mois-ci, sur le bassin d'Aubenas, c'est le mois de la petite enfance. Alors, il y a tout un tas d'animations qui vous sont proposées. Je vous refais pas tout le programme, il y a quand même de l'éveil sensoriel, des ateliers, des spectacles, des expositions, des jeux. Pour les jours à venir, sachez que depuis le début du mois, et ce jusqu'au 27 avril, vous avez à la médiathèque intercommunale de Jean Ferrat à Aubenas des jeux d'assemblage de Gay Fégérif. C'est une exposition à manipuler pour les tout-petits. Très interactif, très coloré, très sympa. Vous avez aussi ce vendredi 19 avril, donc toujours à la médiathèque Jean Ferrat, l'espace multisensoriel qui sera là. C'est des activités libres autour de l'éveil des sens. Et vous avez aussi, pardon pour le bruit, ce samedi 20 avril, vous avez un croque-histoire pour les 0-4 ans. C'est à 10h30, ce sera à la médiathèque de Jean Ferrat au Bonnat toujours, et c'est de la lecture d'histoire pour les tout-petits. Et si jamais vous cherchez d'autres activités plus immersion nature, je vous conseille d'aller faire un tour chez Mésange et Libellule, car cette année encore, ils ouvrent des stages nature pour les semaines de vacances. C'est toute la journée pour les 6-11 ans et les après-midi pour les 3-5 ans. Ceux du 15, ça a commencé et ça durera jusqu'au 26 avril. Ils partiront sûrement à la recherche de traces mystérieuses d'animaux qui peuplent le petit bois, partir chercher des feuilles de chêne, des fruits d'acacia, des chefs-d'œuvre dignes des rois. Ils construiront sans doute des belles cabanes pour les lutins des bois. Au bord du ruisseau, ils fabriqueront les plus jolis radeaux qui soient, mais on ne peut pas nous en dire plus, car le programme, ce sera avec les enfants qu'il sera conçu. Plus d'infos, vous pouvez aller sur le site mesangeslibellule.com. Réservez vos dates, et pour plus d'enseignements, n'hésitez pas à leur passer un petit coup de téléphone au 06 77 53 62 89, ou alors carrément à leur écrire à mesangeslibellule@gmail.com.
Retourner aux origines de l'expérience, ça passe donc par un retour à l'enfance. Je vous en parle également pour boucler cet agenda. Deux ateliers à partir de 4 ans sont proposés par le musée d'Alba à la Romaine ce vendredi à 14h, un atelier pixel à la Romaine où vos bambins sont invités à réaliser leur propre mosaïque, et à 16h, un atelier pour découvrir le monde fabuleux des graines. Le rendez-vous est donné à l'accueil du musée. La participation se fait sur réservation et vous devrez débourser 6 euros pour une entrée adulte, 3 euros pour les moins de 25 ans. Pour rappel, le billet donne accès à l'ensemble du musée. C'est la fin de cet agenda. Tout de suite, le choix musical de notre invité, Roger Lombardou. On vient d'écouter un extrait des Planètes, œuvre composée par Gustav Holst entre les années 1914 et 1917. C'était le troisième mouvement intitulé Mars en référence à la planète. C'est une œuvre présente dans l'expérience humaine. Roger Lombardou, votre pièce qui se joue à partir de ce soir à l'Oracle en Vivarais. Roger Lombardo, pourquoi ce choix et pour quelle place occupe ce morceau dans le spectacle?
C'est le final. On l'entend bien, je crois. C'est oui, parce que au final, on part dans l'espace. C'est là où on est dans les planètes avec Gustav Holst. C'est une musique qui a beaucoup inspiré les compositeurs contemporains, notamment pour les musiques de films. John Williams ou autres, on retrouve l'inspiration de Holst dans La Guerre des Étoiles, par exemple. Hein. C'est étonnant d'avoir cette musique-là au début du XXe siècle, déjà. Souvent, on pense que c'est une musique plus récente. C'est une œuvre extraordinaire, hein, magistrale. Donc, au final, on a Mars et on enchaîne avec Vénus, parce qu'on revient là, c'est effectivement martial, on va dire, c'est l'expression de la guerre, et on enchaîne avec Vénus, la paix. Hein. Donc il y a cette montée, et ensuite on redescend avec la paix. Mais parce qu'on fait au final ce voyage dans les étoiles.
De manière générale, la musique occupe une part importante dans vos œuvres. On peut penser notamment à votre pièce de 2020 qui a été jouée au Théâtre Antique d'Alba la Romaine, Le Nouveau Monde, donc inspiré du Banquet de Platon.
Oui.
Quel est le lien entre le théâtre, la musique et les œuvres, les peintures? Qui d'ailleurs sont à la source de l'inspiration de l'expérience humaine avec ces deux œuvres de Gustave Courbet, L'Origine du Monde et Un enterrement à Ornans.
Le théâtre n'existe que par les autres arts. Il s'appuie toujours sur la poésie, sur la peinture, à travers les décors, sur la musique. Il n'y a pas de théâtre en soi sans les autres arts. Et là, c'est le cas. On s'appuie sur le texte, donc dramaturgique. On est dans la poésie. On s'appuie sur la peinture. Les auteurs du 19e siècle, plutôt, puisqu'on part de Gustave Courbet, et jusqu'à, on va dire, quelque chose de trivial, c'est qu'il est difficile de travailler avec les œuvres des peintres contemporains, parce que, voilà, obtenir les droits, ce n'est pas simple. Donc on a travaillé, et puis le propos s'y prête, donc travailler avec les peintres, notamment 19e, début 20e, Bonnard, Van Gogh, on a tous les grands peintres qui apparaissent dans ce spectacle à travers une soixantaine de tableaux. Et puis, c'était aussi la question, la musique qui est présente effectivement dans toutes mes pièces depuis le début, parfois avec des musiciens sur scène. C'était le cas avec Bienvenue sur la Terre, la pièce précédente qu'on a présentée en novembre. Cette fois, c'est de la musique enregistrée, parce que le théâtre petit, c'était difficile de faire entrer un orchestre symphonique, 62 musiciens pour interpréter les planètes de Gustav Holst se plaisante. Mais voilà, donc oui, et la musique toujours présente dans tous les spectacles. Je ne crois pas que j'en ai créé un sans la musique, et ça doit faire je ne sais pas combien de ce spectacle, peut-être 60, 70, peut-être plus, je ne sais plus, 50 pièces écrites, mais beaucoup plus avec les spectacles, mais toujours de la musique.
Tant qu'on parle de dialogue, donc là on parle de dialogue entre les genres artistique, mais le nom, le titre de votre pièce, donc l'expérience humaine, sous-entend également un dialogue entre l'unicité, la singularité de notre expérience à nous, à chacun, et la grande histoire, l'expérience humaine. Vous semblez sous-entendre qu'on partage quelque chose, nous tous les humains. Qu'est-ce que c'est ?
Ben, d'abord, on appartient tous à la même espèce. J'aime bien le rappeler parce que il y en a qui ont tendance à nous faire croire que on pourrait être différent dans ce sens-là. Non, on appartient tous à la même espèce, quelle que soit notre couleur, notre origine, etc. Ça, je tiens toujours à le rappeler. On appartient à l'espèce qui s'appelle Homo sapiens. Voilà. On vient de là. Donc, j'ai eu envie de raconter l'histoire, le parcours d'un homme, le mien en l'occurrence. J'aurai cette année 77 ans, je suis né à la fin de la guerre, et j'ai eu envie de raconter ce que j'ai traversé, ce qu'un homme a traversé en 75 ans de vie, les grands événements du monde. Je ne pensais pas qu'on allait... je l'ai toujours pressenti, mais je ne pensais pas vraiment que la guerre allait arriver si près. Je me suis rendu de nombreuses fois sur les terrains de guerre en ex-Yougoslavie. Je ne pensais pas la revoir maintenant en Europe, à nos portes côté Moyen-Orient, côté Europe. Donc c'est assez terrifiant. Cette pièce aussi dénonce cette imbécilité totale, cette monstruosité qu'est la guerre. C'est à propos sur la paix que je tiens, parce que on en a connu pas mal, ma génération, même si on est prétendument né après la guerre, comme s'il n'y avait eu que celle-là. Nous, on a bien sûr connu ensuite les guerres coloniales. Mon frère, qui a 14 ans de plus que moi, qui est décédé aujourd'hui, a fait la guerre d'Algérie. Bon. On a connu l'Indochine, l'Algérie, et puis après le Vietnam avec les Américains, et puis toutes les dictatures, Pinochet, etc. Voilà. Et on revient toujours à ça. On revient inlassablement à ça, à la monstruosité. Et donc j'ai voulu raconter cette histoire, l'histoire d'un homme qui parcourt 75 ans de vie, et tout ce que cet homme a rencontré de merveilleux aussi, et avant tout le merveilleux, l'art. Et c'est ce que je défends depuis toujours, toutes les formes de l'art. Nietzsche disait qu'il ne reste que ça. Je crois que véritablement, tout ce qui l'agitation politique, si elle ne repose pas dans une foi en l'homme, en la beauté, ne produit rien du tout, à mon sens. Donc c'est ce parcours-là. Mais et à ce stade-là, je voudrais dire que l'évolution dans mon travail, elle vient maintenant en partie, à grande partie, de mon fils, Manuel, notre fils, puisque Cécile est aussi associée toujours à cette aventure, puisque, avec Cécile, on est associé depuis plus de 50 ans maintenant, et voilà, notre fils travaille aujourd'hui avec nous, et c'est lui qui aujourd'hui non seulement assure la régie de la pièce, mais la mise en scène. Ce n'est plus moi qui suis à la mise en scène, je l'ai été pendant de longues années, mais ce qu'on va voir avec l'expérience humaine, c'est une mise en scène qui lui appartient totalement, quoi. le souligner, parce que je ne suis pas seul dans cette aventure.
Ambivalence, ce lien entre horreur et beauté, on le retrouve vraiment en fil rouge. Je pense notamment à la pièce « Ce soir, je ne jouerai pas Antigone » en 2018, qui parle de la crise des migrants. Je vous propose peut-être de lire un petit extrait, de nous oui. parler un petit extrait de cette œuvre, donc l'expérience humaine, pour nous donner à entendre. Oui. Ce dont vous venez de nous parler.
D'accord. Donc, on était la première génération de l'après-guerre et on rêvait d'un autre avenir pour l'humanité. Le Peace and Love nous renvoyait à Schiller et à ses « Soyez embrassés, millions d'êtres », de l'Ode à la joie de la 9e symphonie de Beethoven. Aux propos de paix perpétuelle de l'abbé Saint-Pierre, de Rousseau, de Kant, à la lettre à un hindou de Tolstoï, l'auteur de « Guerre et paix », qui dit en substance « Il n'y a qu'une solution, celle de la reconnaissance de la loi d'amour et du refus de toute violence. Toute sa vie, il a dénoncé le patriotisme russe et tous les patriotismes qui engendrent la haine des autres peuples et déploré le sacrifice inutile de milliers de ses compatriotes dans des guerres aussi criminelles qu'absurdes. Ses propos nous renvoyaient à la lettre d'Einstein à Freud, par laquelle il lui demande « Existe-t-il un moyen d'affranchir les hommes de la menace de la guerre ?» Ce à quoi Freud répond longuement et pose une autre question. Pourquoi nous élevons-nous avec tant de force contre la guerre, vous et moi? Parce que tout homme a un droit sur sa propre vie, parce que la guerre détruit des vies humaines chargées de promesses, place l'individu dans des situations qui le déshonorent, le force à tuer son prochain, contre sa propre volonté. Nous sommes pacifistes parce que nous devons l'être en vertu de mobiles organiques. Je pourrais continuer juste un peu. Durant 12 années, nous avons cultivé notre jardin et mené une existence contemplative au milieu de la nature. Une expérience qui m'a permis de prendre pleinement conscience du cadeau que la vie représente. C'est tellement incroyable de venir au monde, de se retrouver là, sur la terre, cet astre minuscule perdu dans l'immensité de l'univers. Quand on prend le temps d'y penser, on est saisi par le vertige. On ressent au plus profond de soi que l'existence humaine trouverait sens à s'organiser autour de la vision de notre apparition. Les « d'où venons-nous » et « qui sommes-nous » de Gauguin ne résident-ils pas dans la conscience qu'on a de notre présence sur la terre? Et le « où allons-nous » n'en découle-t-il pas? La responsabilité nous incombant de choisir notre destination. N'est-ce pas la question que se pose l'homme sur le tableau de Bonnard? Où aller maintenant, alors que nous sommes au paradis? Ne suffit-il pas de contempler les merveilles qui nous entourent et de nous en réjouir, nous réjouir d'être en vie pour les contempler? Notre avenir ne se trouve-t-il pas d'abord dans la préservation de ce havre inespéré qu'est notre planète?
Merci beaucoup pour cette lecture, pour ces mots. Je me permets de rebondir. Vous parlez dans ce texte du cadeau qu'est la vie. Est-ce que cette connaissance, cette certitude de se dire que la vie est un cadeau, elle est la même quand on commence qu'à 77 ans? Vous disiez tout à l'heure que vous commencez à passer les rênes à votre fils. Est-ce que c'est devenu un sentiment qui est encore plus présent, plus évident? Vous aviez ce même amour de la vie et cette même notion du temps compté quand vous étiez jeune qu'aujourd'hui?
J'ai envie de dire plus encore. Malgré toutes les abominations, voilà, aujourd'hui qu'on a toujours, je crois que plus que jamais, j'ai envie de lutter pour le vivant. J'ai envie de partager, j'ai envie d'être avec les autres. On ne peut pas laisser prendre toute la place par ceux qui véhiculent le rejet et la haine. Je crois qu'il est important de redire inlassablement la beauté du monde et de redire inlassablement la joie que procure l'amour, le vivre ensemble et tout ce qui fait précisément qu'on est humain. Et comme dit un anthropologue, le problème peut-être c'est que on n'est pas humain par la naissance, il nous faut le devenir. On appartient à cette espèce, mais l'humanité, ça se gagne. Et je citerai encore quelqu'un d'autre qu'on retrouve dans la pièce Goethe, qui disait « L'homme n'est ni bon ni mauvais, il a le choix de l'un ou de l'autre ».
Vous parlez de la beauté du monde et la beauté de l'Ardèche. Vous êtes ici depuis 1974. Vous parlez d'une terre d'adoption. Vous y avez écrit plus d'une quarantaine de pièces. Quel est le rôle c'est une source d'inspiration, l'Ardèche. C'est un territoire, un endroit... Pour écrire, comment ça influence votre œuvre ?
Alors, justement, ce que cette pièce a de particulier, c'est qu'elle fait référence à ma région de naissance, la Franche-Comté, et à mon village aussi, dont je suis parti il y a longtemps, et on a fait la création à la ferme familiale de Gustave Courbet dans le Doubs, et ça me permet de faire se rencontrer ces deux régions. Oui, je le dis, ma terre de naissance et ma terre d'adoption. L'Ardèche, c'est le hasard qui m'a amené qui nous a amenés en Ardèche. On est arrivé par la route des gorges. Quand on arrive par la route des gorges, c'est absolument fracassant, quoi. C'est là que sont arrivés, il y a 36 000 ans, voilà, les premiers représentants de notre branche d'humanité. Et comme le dit si bien Henri Miller, ils avaient le sens de la beauté. C'est pour ça qu'ils sont arrivés en Ardèche, sous ce pont d'arc, c'est tellement émerveillant. Voilà, donc quand on arrive en Ardèche, quand on se prend là, la première chose qu'on se dit, tiens, j'ai bien envie de rester là, et c'est ce qu'on a fait.
Une déclaration d'amour à la vie, mais aussi du coup à l'Ardèche. Est-ce que Nico, tu as une dernière question à poser à notre invité, parce que le temps
Manuel,
passe.
Ou à Manuel.
Ou à Manuel, parce que le temps passe et... faut être maître de l'horloge.
Hey. Non, ce serait plutôt pour Manuel, du coup, comment toi, du coup, tu vis cette transition, comment ça t'a imprégné, j'imagine que tu as été imprégné par le travail, du coup, de tes parents que tu as vu au fil des années, que tu as grandi avec ça.
Ouais, c'est
et
ça.
Et comment tu as pu faire intégrer, du coup, qui tu étais, ton propre développement, jusqu'à maintenant, y revenir, y ajouter ta touche en faisant la régie, entre autres, mais pas que, parce que si c'est à la régie, j'imagine qu'aussi que vous avez plein d'échanges autour de ce qui se fait autour de la pièce.
Oui, il y a tout le travail préparatoire, déjà, tous les tableaux là qu'on a sélectionnés ensemble. Et après, le travail de mise en scène qui va être la mise en scène de l'espace, du théâtre, en plus de la régie. Et après, oui, voilà, pour revenir à votre question, moi, j'ai pas travaillé tout de suite dans le théâtre. Ça fait juste 5 ans qu'on a commencé des projets ensemble et que j'ai commencé ce travail. Donc, j'y suis venu plutôt sur le tard. Et donc, voilà, ça permet de découvrir un peu, d'avoir un œil neuf. Et ben pour le moment, cette collaboration se passe bien, de ces projets. Et j'espère que cette pièce plaira au public.
Mais ce que je voudrais préciser, justement, ce qui est intéressant dans le parcours de Manuel, qu'il ne dit pas, c'est que d'abord, il a étudié l'archéologie à la Sorbonne, et ça, c'est venu aussi de l'Ardèche, de la grotte Chauvet. C'est ça qui l'a mis sur... et donc, là, on se relie en permanence à ses origines, et ils mettent beaucoup dans ce sens-là.
Pour c'est des thèmes, après, qui résonnent avec cette pièce. Comme, des thèmes, ça va plonger assez loin dans le passé. Il y a des références anciennes à l'Ardèche, à la préhistoire, en plus du XXe siècle.
La grotte Chauvet que vous découvrez d'ailleurs en 2009 et qui vous pousse
2003 oui.
Et qui vous pousse à inviter en 2009 par contre 33 auteurs
oui,
à écrire 1000 mots sur chacun des murs pour représenter les 33 000 ans qui nous séparent de la plus ancienne œuvre finalement.
Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai beaucoup travaillé, oui. Et notamment grâce à Dominique Baffier, la première conservatrice de la grotte Chauvet, qui m'a permis d'entrer dans la grotte, que j'ai visitée pour la première fois avec Jean-Marie Chauvet, d'ailleurs. Et ensuite avec Dominique, une grande amie, et voilà, qui est intervenue dans une de mes pièces qui était sur le plateau pour Homo Botticelli. Donc voilà, c'est toute une histoire. Voilà, pour arriver au XXe siècle, j'ai fait ce chemin depuis nos plus lointaines origines. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je voyais encore un documentaire sur Arte cette semaine sur nos origines. On s'est retrouvé à un moment, à 6 espèces différentes ensemble, avec Homo sapiens, avec Flores, Néandertal, Denisova, et tout ça. Et c'est pour ça que, voilà, c'est aujourd'hui une espèce distincte, mais on est tous issus, je le répète, de la même espèce. Et ça, c'est merveilleux. Alors, toutes les autres différences, et justement, on fait appel à la fin de la pièce à une astrobiologiste, Nathalie Cabrol, qui est une Française qui a travaillé à l'Observatoire de Meudon, et qui aujourd'hui travaille sur un projet de recherche de vie extraterrestre pour la NASA. Et elle nous dit de regarder le monde d'en haut, de prendre de la hauteur. Et quand on prendra de la hauteur, on s'apercevra que les luttes qu'on mène en bas sont stériles et l'activité futile. Donc c'est à ça qu'on invite le spectateur, qu'on invite à prendre de la hauteur.
À prendre de la hauteur et à se baigner dans un nuage, une ode à la vie.
Oui, c'est ça, exactement.
Merveilleux.
Je pense qu'on peut se quitter sur ces mots. Hein. Je pense que ça résume tout à fait ce qu'on peut voir, entendre, écouter le 18, 19, 20 et 21 avril, puis le 25, 26, 27, 28 avril à l'Orac en Vivarais. Donc pour rappel, la pièce s'intitule « L'expérience humaine ». Elle est jouée à 20h30. Tous les jours, sauf le dimanche où la représentation a lieu à 18h. Attention, la réservation est impérative. Elle se fait par téléphone au 04 75 36 90 99 ou par mail théâtre.d'aujourd'hui@wanadoo.fr. Petite information, comptez 12 euros pour le tarif plein et 8 euros pour le tarif réduit. Merci Roger Lombardo. Merci Manuel,
merci
Nico, plaisir. Et restez à l'écoute parce qu'à 13h, on a la parole de citoyens, citoyennes, l'émission où les micros de Fréquence 7 deviennent les mégaphones des revendications et des projets pour une société plus juste et solidaire. À 15h, le Télex, vos messages, vos coups de gueule et vos déclarations d'amour. À 17h, on peut réécouter L'Onqueuse parce que c'était vraiment super. Et à 19h, saveur éclectique, la sélection de nouveautés pop, rock et électro concoctées par Julien. Et enfin, à 20h, la playlist de mon pote, une heure de discussion musicale entre amis. Merci à tous, à toutes et à tous pour votre écoute. Et à bientôt.
Merci beaucoup de nous avoir accueillis.
Merci.